Prions pour l'écoute de la parole de Dieu. Seigneur, dans ta grâce, tu nous as rassemblés dans ce lieu d'adoration. Et à cet instant précis, tu veux nous nourrir de ta parole, source de vie. Et nous voulons, Seigneur, que nos cœurs soient disposés à recevoir cette parole. Que ton Saint-Esprit nous donne de ne pas être des auditeurs oublieux, mais de recevoir cette parole pour la mettre en pratique chaque jour dans notre vie. Merci de faire d'être autre voix que la sienne en ces lieux, et de ramener toute pensée captive à l'obéissance à Christ et à Christ seul, au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire les deux textes du Nouveau Testament. Le premier, 2 Timothée, chapitre 4, les versets 6 à 18. 2 Timothée, chapitre 4, versets 6 à 18. Et le second texte, Luc, chapitre 18, les versets 9 à 14. Nous commençons par celui de 2 Timothée. Je lis pour nous dans la version 8 secondes. Car pour moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé à Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Luc 18, 9 à 14. Il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes, et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque se lève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen.
Que la paix de Dieu règne dans vos cœurs. Au début du 16e siècle, une catastrophe sans précédent s'abattit sur l'Occident et l'Afrique du Sud. Je ne dirais pas simplement l'Église, mais tout l'Occident. En effet, le 31-10-1517, le moine Martin Luther affichait 95 thèses sur la porte de la cathédrale de Wittenberg en Allemagne. C'était donc le point de départ d'une des plus grandes révolution religieuse jamais vécue jusque-là. Luther avait déclenché cette grande révolution religieuse. Après avoir fait la découverte de Romains 1, 17. Dans ce verset, en effet, l'apôtre Paul, citant le prophète Habacuc, chapitre 2, verset 4, déclare, je le cite, « Le juste vivra par la foi. » Fin de citation. À cette grande révolution, on a donné le nom de réforme ou réforme, traduisant ainsi l'intention de Luther et de nombreuses âmes pieuses qui souhaitaient que l'Église catholique se réforme de l'intérieur, c'est-à-dire qu'elle revienne à l'Évangile, qu'elle ne prenait plus au sérieux et le remplacer par la superstition. Luther a dit du verset 16 à 17 de Romains 1, ou même de tout l'épître, il a dit, cet épître est le livre capital du Nouveau Testament, le plus pur évangile. Elle est digne non seulement d'être su mot pour mot par chaque chrétien, mais encore de devenir l'objet de sa méditation journalière, le pain quotidien de son âme. Et il ajoute, plus on s'en occupe, plus elle devient précieuse. Quel est le problème? La réforme née donc le 10-11-1483 à Aix-les-Bains. Pardon, c'est plutôt Luther qui est né à cette date. Il est mort en 1546 à 63 ans. Mais c'est à 20 ans, alors qu'il est déjà docteur en droit, qu'il découvre la Bible. Après 20 ans. Quels sont donc les motifs de la réforme? Je vais citer quelques-uns. Je ne peux pas citer tous les motifs. Il faut un autre moment. Les motifs de la réforme. D'abord le baptême. Le baptême est le signe de l'entrée dans l'Église et l'engagement du baptisé. Romains 6, 1 à 11, 1 Pierre 3, 21. Mais l'Église catholique romaine affirme contre l'Écriture que le baptême lave le péché originel. Deuxième chose, la pénitence. Pour l'Église catholique, le sacrement par lequel sont pardonnés les péchés commis après le baptême. Il requiert du pécheur la contrition, la confession et la satisfaction, c'est-à-dire la réparation de l'injure faite à Dieu. Il va le faire en posant certains actes de piété ou en donnant certains dons. Et l'évêque absout alors son péché. Le culte de la Vierge Le culte de Marie commence au 4e siècle. Marie peut intervenir auprès de son fils, n'est-ce pas? C'est la maman. L'invocation des saints et des anges. Ils sont si nombreux. Ça dit ces saints et ces anges sont si nombreux. Qu'afin de ne oublier aucun, l'Église catholique a institué une fête de tous les saints, la Toussaint, le 1er novembre. Les anges, on les invoque aussi. Chaque fidèle a son ange. Les reliques et le culte des images. Reliques, c'est-à-dire restes ou prétendus restes des saints qui sont morts. Les ossements, c'est une partie de leur corps. Le purgatoire, c'est un lieu, dit l'Église catholique, où ceux qui sont morts en état de grâce, c'est-à-dire non coupables de péché mortel, parce que pour l'Église catholique, il y a deux sortes de péchés. Un, il y a les péchés mortels qui font perdre la grâce. Et les péchés véniels qui ne font pas perdre la grâce. Si quelqu'un meurt en état de péché mortel, il va en enfer. Mais s'il meurt, s'il meurt en s'étant rendu tout simplement coupable d'un péché véniel, il est pardonné et justifié par le sacrement de pénitence. Les indulgences. Nous sommes sauvés par la seule grâce, moyennant la foi, comme le précise Éphésiens 2, verset 8. Mais l'Église catholique enseigne que l'homme est capable de faire le bien par lui-même et doit accomplir des œuvres propres à lui assurer le salut. On a même pensé que certains sont saints au-delà du nécessaire. C'est-à-dire qu'ils sont trop saints. Ils ont fait trop d'œuvres, trop de bonnes œuvres. Ils ont fait plus qu'il n'a fallu. Ainsi, ils peuvent faire cadeau à d'autres personnes. Et j'en passe. Vous avez une idée, n'est-ce pas? Venons-en maintenant au message du jour. Le message que le Seigneur Jésus nous adresse ce matin vient de Luc 18. Chapitre 9, verset 14. Chapitre 8, 18, verset 9 à 14. En effet, Jésus utilise dans ce passage une parabole pour s'adresser à certaines personnes qui croyaient être justes et mépriser les autres. Dans cette parabole, Jésus met en scène deux personnes, un pharisien et un employé des impôts, qu'on appelait encore péager. Ils sont montés ensemble au temple de Jérusalem pour prier. Le pharisien, qui estime qu'il est juste, qui s'est autoproclamé juste monte en première ligne et étale, n'est-ce pas, par ses paroles, ses œuvres devant Dieu. En réalité, il ne prie pas. Il expose ses mérites et se voit supérieur à l'employé des impôts. Cet employé des impôts qu'il juge et condamne sans miséricorde. Il est vrai que selon l'enseignement de sa secte, de ce groupe, le pharisien s'acquitte vraiment des pratiques que toute personne pieuse devait faire pour être sûr qu'elle est juste. Mais servir Dieu dans un pareil esprit de suffisance, c'est démontrer qu'on n'attend rien de Dieu, de ce Dieu qu'on sert. Si oui, l'approbation. L'employé des impôts, lui aussi, dit vrai. Il se reconnaît pécheur et estime même qu'il n'a pas le droit de soulever sa tête pour regarder dans la direction du trône de Dieu. Il refuse de se mettre en première ligne comme le pharisien et confesse en retrait et dans l'humilité ses péchés. Cette confession va l'ouvrir à Dieu et à sa grâce. Il rentrera chez lui justifié, c'est-à-dire sauvé. Contrairement aux pharisiens, car Dieu élève ceux qui s'abaissent et abaisse ceux qui s'élèvent. Aucun ne peut être sauvé par ses propres efforts, par ses bonnes œuvres. D'ailleurs, quel genre de bonnes œuvres peux-tu faire d'extraordinaire? Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Dis-moi. Si on pouvait être sauvé par ses bonnes œuvres, est-ce que Jésus serait venu? Non. Jésus est venu pour faire ce que nous devrions faire. Si on pouvait être sauvé par ses bonnes œuvres, Jésus ne serait jamais venu sur cette terre. La confession du péager, du chargé des impôts, va donc l'ouvrir à Dieu et à sa grâce. Et va rentrer chez lui, sauvé, contrairement aux pharisiens. Pour être sauvé, il suffit de croire en Jésus, c'est-à-dire de reconnaître qu'il est mort pour nos péchés. Tout le combat du réformateur, je le vois, du réformateur allemand, c'était cela. Reconnaître que Christ est venu mourir pour nos péchés et pas que nous allons faire ceci ou cela pour nous sauver. Martin Luther voulait amener l'Église catholique à accepter de reconnaître qu'on est sauvé uniquement par la foi qu'on ne peut rien faire d'extraordinaire pour que Dieu nous accepte. On on est sauvé par la foi uniquement, sans le secours des œuvres. Car les œuvres bonnes, aussi nombreuses et aussi belles soient-elles, ne peuvent ouvrir le ciel à personne. Je répète, les œuvres bonnes, aussi nombreuses soient-elles, aussi belles soient-elles, ne peuvent ouvrir le ciel à personne. Seule la foi en la puissance de la grâce de Dieu qui pardonne est efficace pour donner le salut. Croire que Jésus est venu pour mourir à notre place et faire ce que nous devrions être à mesure de faire et que nous n'avons pas été à mesure. Cependant, il faut bien retenir aussi, s'il faut éviter de penser qu'on peut acheter le salut avec les bonnes œuvres, il est tout aussi vain de croire à un salut à bon marché, un salut horsi, un salut accordé à tout le monde. Pourvu qu'on donne un peu ou beaucoup d'argent. Jésus est venu et Jésus s'est présenté sur cette terre pour détruire les œuvres du péché. On ne peut pas être sauvé avec le péché. Jésus est venu pour détruire les œuvres du péché. Et pour cela, il est mort de mort violente et honteuse sur la croix comme un vulgaire malfaiteur. Ce qui veut dire que le péché est une très très mauvaise chose. Il faut le retenir également. Le péché nous sépare de Dieu et nous conduit à la mort éternelle. Pour être sauvés, nous devons donc nous repentir, naître de nouveau, nous repentir sincèrement, naître de nouveau et abandonner la vie de péché. Ensuite, nous devons prouver notre reconnaissance à Dieu pour le salut gratuit. Le salut gratuit qui nous a donné en menant une vie pieuse accompagnée de bonnes œuvres. Voyez là où interviennent maintenant les bonnes œuvres. Pas avant. D'abord, naître de nouveau. Reconnaître que Christ est mort pour moi et que je ne pouvais rien faire pour être sauvé. Et maintenant, faire les bonnes œuvres pour dire merci à Dieu. Comme je disais ce matin, comment tu peux préparer la nourriture, n'est-ce pas? Tu retires la part de ton enfant, du bébé de 2 ans. Tu lui donnes. Et tu demandes, donne ma part. Tu vois, il fait un peu comme ça là. Hein? Il met un grain entre tes mains. C'est comme ça. Parce que si je donne 1 milliard à Dieu, ça fait quoi? Qu'est-ce que ça fait? Même 100 milliards. Qu'est-ce que ça fait? L'essentiel, c'est ma vie. C'est que je me confie à Dieu. C'est que je me repens et que je m'abandonne effectivement à Dieu et que je vis pour lui et par lui. Donc, quand nous nous sommes repentis, quand nous sommes nés de nouveau, nous pouvons prouver notre reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour nous. En accomplissant des bonnes œuvres. En menant une vie pieuse. On n'est donc pas sauvé par les œuvres, mais on n'est pas sauvé sans les œuvres. Il faut encore bien noter ça. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais on n'est pas sauvé sans. Si tu es sauvé, mais prouve-moi. Il faut prouver. Si tu ne prouves pas ce que tu n'es pas sauvé, tu mens. Il ne faut jamais l'oublier. Le Seigneur Jésus reproche le pharisien. Si le Seigneur Jésus reproche le pharisien, c'est parce qu'il met la charrue avant les bœufs et pense aller à l'assaut du ciel. Il veut gagner le ciel avec sa force, avec ses moyens, par ses œuvres, ce qui est impossible. Cet homme-là manque d'humilité. Il ne se connaît pas et n'a pas une idée claire de l'être humain. Il ignore que depuis la désobéissance d'Adam et Ève, le péché a atteint toute l'humanité et que chaque être humain est issu des parents qui ont hérité de la nature pécheresse de leurs parents et transmettent cette nature pécheresse à leur tour, à leurs enfants. Cela veut dire que tous les veines de ce pharisien coulent, dans les veines de ce pharisien coule un sang entaché de péché que seul le sang de Christ est capable de purifier et non les œuvres. Au lieu de se prévaloir de sa supériorité par rapport à l'employé des impôts, il aurait donc mieux fait de quémander la grâce de Dieu en Christ pour être sauvé. Au lieu de passer tout son temps à se moquer, n'est-ce pas, de celui qui est à côté de lui, il fallait qu'il quémande la grâce de Dieu en Christ. Malheureusement, il ne l'a pas fait et rentrera chez lui avec son péché non pardonné. Malheureusement, beaucoup de chrétiens adoptent encore aujourd'hui l'attitude du pharisien. Ils pensent que leur présence dans l'église, leur titre, leurs bonnes œuvres, le fait qu'ils fassent toutes les réunions, ils pensent que tout cela suffit. Et que toutes ces œuvres-là, tout ce qu'ils font là, vont remplacer la piété caractérisée par l'écoute de Dieu à travers la lecture et la méditation de sa parole et la mise en pratique de cette parole. Une autre catégorie de pharisiens modernes pense que parce qu'ils participent à toutes les réunions d'église où leur présence est exigée, parce qu'ils essayent d'étudier la parole de Dieu et la mettre en pratique, ils sont au-dessus de tout le monde et méritent seul le salut éternel. Le salut, c'est leur affaire. Les autres, on n'en a pas besoin. Ceux-là risquent aussi, par leur orgueil, de se priver de la grâce de Dieu, car c'est uniquement par cette grâce que nous sommes sauvés, sans aucun mérite. Tout est grâce. Nous ne pouvons rien faire pour mériter ce que Christ a fait pour nous. Si l'apôtre Paul estime qu'il a combattu le bon combat et a sa place au ciel, il ne dit pas que ce n'est pas ses mérites. Lui qui a dit, je le cite, j'ai renoncé à tout est gelé. Il dit, j'ai regardé ces choses-là comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Et il ajoute, je le cite, ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Fin de citation. Le danger de la suffisance, c'est qu'on risque de se croire arrivé et de s'arrêter, alors que la vie chrétienne consiste à persévérer jusqu'à l'avènement de notre Seigneur. Chers amis, chacun de nous doit toujours tendre vers la perfection, vers la sanctification, qui doit rester une quête permanente. Cela demande du temps, des efforts. Il n'y a pas de place pour la paresse spirituelle, car elle est mortelle. C'est bien dommage que beaucoup d'entre nous réduisent la vie chrétienne à quelques petites choses. Faire de temps en temps le culte, communier, payer ses offrandes, le montant suffisant, et pourquoi pas plus un peu. Faire les réunions de prière, d'études bibliques et d'édification, les assemblées d'église, et tout ce qui les concerne. C'est bien, mais il ne faut pas croire qu'avec ça on est déjà arrivé. Beaucoup de ces chrétiens là sont vides. Ils ignorent la volonté de Dieu et sont la proie facile des sectes de toutes sortes, et le diable ne fait d'eux qu'une bouchée pour les envoyer dans son camp et les malmener à volonté afin de les perdre. Ne soyons jamais de ceux-là, n'est-ce pas? Amen.